Jésus, au travail, sois élevé partout dans nos vies, Jésus. Nous voulons te louer ce matin. Nous voulons louer le nom le plus grand, le plus puissant. Sois élevé dans nos vies. Ton nom est vie, Jésus. Ton nom est vie.
Je voudrais soumettre à l'Église cette pensée. Ton cœur saigne, ton cœur a mal, ton cœur souffre. Et Dieu n'est pas insensible à cela. Jésus n'est pas insensible à ta souffrance. Il sait ce que tu endures. Il a lui-même enduré la souffrance. Il a enduré tout cela sur la croix. Mais cette souffrance va apporter quelque chose de beau dans ta vie. Considère l'œuvre qui se fait dans une huître, dans ce coquillage. Un grain de sable qui irrite l'huître produit en fait une perle. Et cette perle devient magnifique et belle, et considérée comme une beauté, comme quelque chose de magnifique, de merveilleux. Ne rejette pas les choses qui t'arrivent, accepte-les, mais considère l'œuvre de Dieu et demande à Dieu de t'instruire à travers cette souffrance que tu subis, à travers cette blessure que tu as. Demande à Dieu de t'instruire, de te former et de t'expliquer les choses, parce que Dieu t'aime. Il ne veut pas que cette souffrance soit inutile, mais il veut te former. Il veut t'amener plus loin. Il veut t'enlever cette souffrance, c'est vrai, mais en faire quelque chose de beau. Considère cette perle que tu es en train de devenir. Considère cette chose précieuse aux yeux de Dieu. Considère que dans la Nouvelle Jérusalem, les portes sont elles-mêmes des perles. Amen.
Bien sûr, ce don peut parler à une personne en particulier ou à plusieurs, mais il peut également nous parler aussi de la mort de Jésus et de la souffrance qu'il a vécue, expérimentée, au moment où il est mort sur la croix. Et nous allons maintenant penser, agir, faire cet acte de mémoire qu'il a lui-même demandé que nous fassions ensemble. Nous allons nous préparer à la Sainte Cène. La Sainte Cène, qui est représentée par les éléments qui se trouvent dans la coupelle que vous avez entre les mains, et si jamais vous ne l'avez pas pris, sachez qu'il y a encore à l'entrée sur la table. La Sainte Cène est un acte de mémoire. Elle nous parle non seulement du passé, mais elle nous parle de notre présent et de l'avenir. Découvrons ce que l'apôtre Matthieu, dans l'évangile au chapitre 26, à partir du verset 26, nous en dit. Au cours du repas, Jésus prit le pain, demanda à Dieu de le bénir, puis le partagea et le distribua à ses disciples en disant « Prenez, mangez, c'est mon corps ». Puis il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car c'est mon sang, par lequel Dieu scelle l'alliance nouvelle. Il va être versé pour que les péchés de beaucoup d'hommes puissent être pardonnés. Je vous le déclare, à partir de maintenant, je ne goûterai plus de ce fruit de la vigne avant le jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. » Ces paroles ont été prononcées par Jésus il y a plus de 2000 ans. Entre-temps, il est mort, ressuscité, monté au ciel. Il est assis auprès de son Père, où il nous prépare une demeure pour que nous puissions l'y rejoindre un jour. Mais elle nous parle d'alliance, et l'alliance, c'est aujourd'hui, c'est pour nous, c'est maintenant. À tous ceux qui ont reconnu qu'ils étaient de nature pécheresse, qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir par eux-mêmes, mais que Jésus pouvait les délivrer du péché, eh bien Jésus propose cette alliance. Et une alliance, elle se passe entre deux personnes, entre deux pays, qui décident ensemble de faire quelque chose, d'avoir un projet. Et puis elle nous prépare à ce que nous vivrons un jour aussi, de quelque chose que nous ne connaissons pas encore, que nous ne pouvons pas comprendre, mais que nous vivrons. Alors je nous invite aujourd'hui à penser à aujourd'hui. Je nous invite à penser à l'alliance. Avons-nous passé alliance avec Jésus ? Est-ce que nous avons oublié une partie de notre alliance, nos vœux de baptême peut-être? Une parole que j'ai donnée à Jésus, « Seigneur, je vais faire telle chose ». Peut-être aussi que cette semaine ou ces derniers temps, nous nous sommes éloignés de Jésus, nous avons peut-être péché. Mais rien ne nous empêche de revenir à lui, car il nous accorde son pardon. Jésus est généreux de cœur. Jésus est généreux de cœur. Il nous fait grâce. Considérons notre alliance avec lui et avant même de prendre les éléments de la Sainte Cène, prenons quelques secondes de silence, de réflexion en disant « Où en suis-je de mon alliance avec mon Seigneur Jésus ?» Réfléchissons un peu maintenant, quelques secondes. Pour signifier que nous sommes d'accord avec Jésus, nous allons ensemble prendre la Sainte Cène. Je vous invite à ouvrir la coupelle qui est dans vos mains, enlever les opercules, vous mangez le premier morceau qui symbolise le pain, ensuite vous avez ce qui symbolise le jus de raisin, le vin. Et nous nous souvenons que c'est ce que Jésus nous a dit de faire, qu'il y tient particulièrement et que ce moment lui est particulièrement cher. Et c'est en cela que nous pouvons donner suite au don qui nous a été apporté. S'il a fait alliance avec moi, alors tout ce que je vis lui donne du sens et il y a une solution qui vient de sa part.
Seigneur, le moment est juste de reconnaître d'où viennent les bénédictions. Elles nous viennent de Dieu, elles nous viennent de l'Éternel Dieu. Alors ce matin, tu nous conduis au travers de cette louange à être reconnaissants, parce que personne n'est oublié devant toi, Seigneur Jésus. Aucun enfant, aucun préado, aucun ado, aucun jeune, aucun étudiant, aucun adulte, aucune mamie, aucun papy, aucune arrière-grand-mère, aucun arrière-grand-père. Tu n'oublies personne. Ton regard est sur nous ce matin. Ton regard de bénédiction, ton regard de restauration, ton regard d'encouragement. Seigneur, merci. Merci pour cette bénédiction que tu nous as accordée au travers de Jésus. Comme l'a dit Anita, le voile s'est déchiré. Et nous avons, dans la grâce de Dieu, un accès auprès du trône de la grâce pour chacune et chacun d'entre nous ce matin. Merci pour ce rappel, Seigneur. Tu parles déjà depuis ce matin, tu es en train de nous parler. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles. Ouvre nos yeux spirituels. Il y a parfois des murmures de Dieu et il y en a plusieurs pour nos âmes ce matin. Merci de bénir tous les disciples de Jésus dans ce lieu qui sont en bonne forme, qui vont bien dans leur relation avec toi. C'est ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci aussi de bénir quelqu'un, une personne fatiguée, chargée. Et tu l'appelles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Oui, Seigneur, nous voulons être une église où on se bénit les uns les autres. Nous bénissons chaque personne dans ce lieu. Nous bénissons les enfants qui se rencontrent, les ados qui se rencontrent. Nous bénissons toutes les personnes qui vivent dans ce quartier ce matin. Spirituellement, nous les bénissons dans le nom de Jésus. Nous bénissons la ville de Strasbourg. Nous prions que le bien du ciel descende, se déverse dans cette ville qui a tellement besoin de la grâce de Dieu. Nous prions pour les autorités de cette ville, qu'ils puissent réaliser qu'il y a un Dieu qui aime Strasbourg et qui aime toutes celles et ceux qui ont des responsabilités. Qu'il y ait des rendez-vous divins et qu'il y ait des rencontres divines avec toi, aujourd'hui, demain et jusqu'à ce que tu reviennes. Oui Seigneur, apprends-nous à être une église qui bénit comme toi-même. Tu bénis, Seigneur. À toi toute la gloire pour tout ce qu'on vit ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'avant de s'asseoir, on peut juste applaudir le roi? Juste l'acclamer. La Bible a dit, acclamez Dieu, acclamez Dieu, acclamez Dieu, gens du monde entier. Acclamez Dieu, acclamez Dieu. Vous pouvez prendre place. On continue avec la vie de l'Église.
King's Hermès a fermé ses portes depuis peu. Vous vous demandez sûrement que faire maintenant. La ville de Strasbourg met à votre disposition des transports en commun. Comme vous le savez, le parking Sermès a fermé ses portes depuis peu. Vous vous demandez sûrement que faire maintenant. La ville de Strasbourg met à votre disposition des transports en commun. Il est possible.
À chacune et à chacun ce matin, on voulait faire une première annonce parking. Déjà pour vous remercier d'avoir relevé le défi ce matin. Pouvez-vous vous encourager d'être venu, d'être à l'heure, de bénir la ville de Strasbourg en prenant les transports en commun, le covoiturage. On a quelques infos pour vous. Vous verrez, la vidéo va tourner sur nos réseaux sociaux, va tourner par une newsletter. Vous aurez accès à cette vidéo à partager à toutes les personnes qui seraient intéressées de venir. On a juste une petite info, vu qu'on démarre un petit peu dans la pratique. Déjà, un grand merci pour toute l'équipe d'accueil, le dépose minute. Vraiment, on peut les encourager. Ça a été vraiment bon. Alors, j'ai un petit message. Merci de faire attention aussi à notre civilité sur la route. Les demi-tours sont interdits devant les pies parce qu'il y a de la circulation. Il n'y a pas que nous qui empruntons ce passage-là. Il y a des cyclistes ou autres. Donc il faudra bien assumer le fait que quand on arrive dans une direction, on repart dans la direction. Et quand on arrive dans une autre direction, on repart dans la même direction. Et on évite de faire des demi-tours parce que peut-être qu'il pourrait y avoir un peu des accrochages. Mais on va grandir là-dedans. Ça va avancer et ça va être trop bien. En tout cas, merci beaucoup pour d'avoir entendu aussi toutes les informations, toutes les annonces qui ont été faites. C'est vraiment bon. Un grand merci à vous. On a un message pour chacun d'entre vous qui aimait la lecture ou qui voulait vous remettre un peu à la lecture. La librairie annonce qu'il y a un arrivage de nouveaux livres. Alors n'hésitez pas à y aller. L'équipe vous accueillera avec un beau sourire et de la bonne littérature. On a une annonce aussi importante pour toutes les dames, damoiselles ici à l'EPI. L'EPI organise Women's Day, une rencontre à destination de vous, mesdames. Ça aura lieu le samedi 11 mars. De 10h à 16h en salle cafétéria. Ça se fait sur inscription. Vous avez toutes les infos sur le site internet de l'EPI. Très heureux en église de pouvoir organiser cela. On a aussi des rencontres qui reprennent avec l'année et qui veulent vraiment bénir. Et on est vraiment dans le ton de la bénédiction ce matin. Et on vous a annoncé depuis un certain temps, nous reprenons des temps de réunion de prière pour la mission et nous en profitons pour prier pour les missionnaires. Et rien de mieux que des missionnaires pour en parler. Alors je vais laisser parler les missionnaires. Ok, ben ça va arriver avec la newsletter. Si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, c'est le moment de vous inscrire à la newsletter de l'EPI. Incroyable! Donc voilà, ça sera un message d'Agathe et d'Estrajnik pour vous encourager à participer à cette réunion de prière. C'est les deuxièmes jeudis du mois, 19h30, en salle jeunesse. Voilà, la première aura lieu le jeudi 9 mars. On continue aussi avec une info importante, c'est l'Assemblée Générale de l'EPI qui aura lieu le dimanche 12 mars à 11h. Vous avez les procurations, si vous ne pouviez être là, vous qui êtes membre associatif au niveau de l'association EPI Cultuelle, vous avez la possibilité d'avoir des procurations au point accueil, de donner à un autre membre votre procuration pour des votes qui sont importants, qui emmènent l'Église dans une orientation aussi. Donc je voudrais simplement vous présenter le potentiel futur conseil d'administration, si ça c'est OP ou pas. Oh, génial. Voilà, que vous puissiez les voir, il y a les affiches, les convocations sont affichées là. Donc voilà, élection du conseil d'administration. Les candidats sont élus par les membres de l'EPI à la majorité des suffrages exprimés, du nombre de membres présents le moment de l'AG. Donc c'est important pour nous que vous soyez là. Donc vous avez des candidats entrants, vous avez le beau gosse qui est sur votre gauche, qui s'appelle Mathieu Thoman. Voilà, donc comme on vous l'a dit, on vous le redit, voilà, c'est une élection pour que j'intègre le conseil d'administration et si vous votez, le conseil d'administration me désignera comme le prochain président de l'association. Nathalie Studer aussi, Alexandre Besse, voilà pour les entrants, on peut continuer. C'est de l'autre côté parce que vous aussi vous êtes bien ici. Freddy Freid, Margarita Margarian, Jonathan Schaeffer, Xavier Pillot, Nathalie Remeter et Michael Tsiboula composeraient, selon les votes de l'Église, le nouveau conseil d'administration. Venez le 12, on va célébrer Jésus et on va vivre cet AG, on va vivre tout en même temps, ce sera vraiment un temps fort. J'ai encore deux annonces importantes à faire pour vous dans notre vie d'église. La première, c'est que nous allons entrer au mois de mars et avril dans des temps où nous allons aussi avoir des célébrations avec des invités, des personnes qui vont venir bénir justement l'EPI. Le premier invité que nous allons accueillir s'appelle Stéphane Hillard. Ce sera le dimanche 19 mars. Stéphane Hillard est pasteur responsable de Nouvelle Vie Junior au Québec. Il est impliqué depuis plus de 10 ans auprès des jeunes, des ados et des enfants dans son église, mais aussi lors de retraites spirituelles, de camps, d'enfants, d'ados. Il s'occupe dans son église locale de tout le département enfants, ados, jeunes. Ça sera une grande joie pour nous de l'accueillir. Dimanche matin, il y aura toute une formation pour nos leaders. Le samedi, ils sont déjà au courant. Ils ont tous marqué cette info dans leur agenda. Et maintenant, c'est à vous de marquer cette info dans votre agenda parce que Stéphane va venir et nous parler d'héritage. Vraiment, un héritage qui bénit, un héritage à réclamer. Et nous avons tous un héritage à transmettre. Alors voilà, bienvenue à vous. Dernière information, nous sommes toujours équipe pastorale, conseil d'administration, conseil spirituel, intéressé d'être à votre écoute, de savoir quels sont les sujets qui peut-être sont importants pour vous en ce moment, de pouvoir avoir des échanges avec vous, de manière à pouvoir être une église qui peut être à l'écoute des besoins, des défis, et voir ensemble comment on peut vivre des ressources ensemble, comment on peut vivre de ressources ensemble, comment on peut s'encourager, s'équiper. Et on voudrait vous proposer, vous allez recevoir une newsletter. Oui, encore une fois, une newsletter. Donc si vous n'avez pas de newsletter, vous pouvez, dès cet après-midi, quand vous rentrez, aller sur le site et dire « je m'inscris à la newsletter ». Comme ça, vous aurez toutes les infos, mais sinon on va faire des annonces ici. Mais vous allez recevoir par newsletter, en fait, un mail qui va vous parler, en fait, d'un sondage que nous voulons faire auprès des membres participants à la vie de l'Église. Un sondage qui nous parle de glorifier Dieu au travail, glorifier Dieu dans ma vie professionnelle. Si vous avez un smartphone dès maintenant, vous pouvez, pendant que j'explique ce que c'est, flasher le code et vous allez accéder directement au sondage. Mais attendez un peu pour y répondre. On veut vraiment être à votre écoute. On veut être à l'écoute des chrétiens de l'EPI qui ont une activité professionnelle. Et c'est plus de 90% d'entre nous qui avons une activité professionnelle. Et nous voudrions, au travers de ce sondage, être à votre écoute pour savoir un petit peu comment vous vivez la foi au travail. Quels sont les besoins que vous auriez? On a besoin de récolter ces informations parce qu'on se pose des questions sur comment proposer des ressources aux frères, aux sœurs de l'EPI. Donc vous aurez un mail qui va vous être parvenu et nous aurons aussi une invitée qui va venir nous parler de cette réalité d'être un chrétien au travail, de glorifier Dieu dans mon travail. C'est Anne-Marie Husson. Elle exerce aujourd'hui son travail pour Dieu au travers d'une association qui s'appelle C'est Proactif. Et elle va venir nous partager l'évangile, nous partager aussi tout le message de c'est quoi le travail dans la Bible. Comment Dieu nous invite à voir notre profession? Est-ce que c'est un fardeau? C'est une opportunité? Ou est-ce que c'est les deux? On est vraiment intéressé de pouvoir vous bénir dans le domaine du travail. Donc on compte sur vous pour répondre au sondage. Ça nous donnera des bons indicateurs. On compte sur vous pour être là, pour écouter aussi, pour vivre ce moment avec Anne-Marie Husson. Et en fonction des retours que vous nous allez donner, on va se mettre au travail pour pouvoir vous bénir dans ce domaine-là. C'est bon? Ok. On va prier, on va laisser toute la place à Pierre Samuel. Seigneur, merci pour notre vie en Église. Merci pour la communauté que tu nous permets d'être. Merci parce qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, c'est vrai. Un temps pour célébrer ensemble après une semaine où nous avons été engagés dans diverses activités. Il y a un temps pour louer, pour adorer, prier. Il y a un temps aussi pour se mettre à l'écoute de ta parole prêchée. Alors merci vraiment de bénir ces moments, de bénir nos cœurs, de bénir Pierre Samuel. Et au travers de son message ce matin et de ce que tu as déposé en lui, il y ait comme de la nourriture spirituelle pour notre âme, pour avancer, pour mieux te connaître, mieux bénir notre prochain. Alors à toi toute la gloire pour ce moment aussi. Merci Seigneur. Amen.
Amen. Hop là. Bonjour. Ça va? Ce qui est bien, c'est que si vous êtes là, vous avez mis en application le thème de mon message. Le thème de mon message, c'est relever le défi de la constance. Rester constant. Et ben, malgré les circonstances, vous êtes là. Et du coup, vous êtes constant. Bon, ben, c'est bon. Bonne journée. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ah, ben, c'est pas si facile à dire que ça, non? Il y a des fois, on pourrait dire amen. Puis il y a des fois, on dit amen. On est d'accord? Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, vous l'avez bien compris, c'est la question de la constance. La question de la constance, c'est la question de rester constant, rester pas identique, mais continuer à persévérer dans les circonstances, qu'elles soient favorables ou défavorables. Vous avez déjà rencontré ce genre de personne qui vous lui dit quelque chose et il est chaud, bouillant, il est avec vous et puis deux jours après, il vous l'a fait à l'envers? Ça vous est déjà arrivé? Je me souviens, quand j'ai commencé à prendre le ministère, pas dans cette église, mais dans une certaine église, pas ici, quelque part, et il y a quelqu'un qui me voit et dit « PS, je serai à fond avec toi, derrière toi. dans tout ce que tu vas vivre et tout. Et la moindre erreur que j'ai faite, je me suis fait laminer par cette même personne qui était à fond derrière moi au début. Et alors que je discutais avec un collègue pasteur, je dis ouais, « c'est dur à vivre ». Et là, le mot, il m'a dit « tu sais, PS, il y a toujours des gens qui sont inconstants ». Alors j'ai certainement fait mes erreurs, hein. Mais on a tous autour de nous des gens à qui t'as fait confiance à un moment et puis quelques jours après, bam, ça s'arrête. Alors on pourrait parler que de ces gens-là, mais j'aimerais pas parler de ces gens-là, j'aimerais parler de nous. Parce que la réalité, entre vous et moi, c'est que nous aussi on est un peu inconstants des fois. Hein. Vrai ou faux? Ça vous est déjà arrivé d'avoir ce moment où tu viens vivre le culte? Tu vis un moment de fou et là t'es dans la présence de Dieu, tu dis « Wow, c'est bon, là j'ai pris de l'énergie pour la semaine !» Et lundi, t'arrives et bam, tu te fais allumer complètement. Et ta foi, qui était super forte le dimanche, se trouve complètement, complètement explosée le lundi matin. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des moments où on est à fond avec Dieu, on est là, et puis il y a des moments où on est là avec Dieu. Comment rester constant dans ces situations? Et mon objectif, c'est pas de se dire « Ah oui, moi, ça me fait penser à quelqu'un d'autre. » Mais c'est de se dire « Ok, ça me fait penser un peu à moi. Hein » Parfois. Et je me mets avec vous, comme ça on est tous ensemble. Ma question c'est comment tenir dans la durée. Vous savez, la vie chrétienne, c'est jamais une course de rapidité, mais c'est toujours un marathon. Il faut tenir dans la durée. Et c'est ça le plus grand défi. C'est pour ça que j'ai appelé le défi de la constance, parce que je crois que c'est un défi qu'il nous faut relever. C'est un défi qui est sur lequel il va falloir se battre. C'est un défi sur lequel il va falloir dire, c'est pas acquis, tout n'est pas acquis. Et c'est pas parce que t'as donné ta vie à Jésus que tout est acquis. On est OK avec ça? C'est pas parce que tout est parce que t'as dit Seigneur j'abandonne ma vie complètement à tes pieds que il y a pas des choses encore qu'il va falloir régler à l'intérieur. On est dans un processus, on est dans un chemin. Et notre challenge à chacun d'entre nous, c'est de dire comment sur ce chemin je peux rester constant, je peux rester toujours dans cette relation de proximité avec Dieu. Je crois que c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Mais c'est aussi un vrai vrai défi pour nous. Alors est-ce que ce matin vous êtes prêts ensemble à ce qu'on relève le défi de la constance? Vous voulez voir qu'on puisse réfléchir ensemble sur comment le relever? On y va ensemble? Prenons ensemble cette définition. La constance, qu'est-ce que c'est? La constance, c'est le caractère de quelque chose qui reste identique, qui ne varie pas. Le caractère stable d'une opinion, d'un sentiment, le mot qu'on aime tous, la patience, le mot qu'on préfère par-dessus tout, la persévérance, de quelqu'un entretenu par une force morale sans défaillance. Et alors qu'on a fait, on est dans cette série de messages sur les paraboles. Je voudrais reprendre avec vous une partie d'une parabole dont RP nous a partagé il n'y a pas si longtemps que ça, qui se trouve dans la parabole du semeur. Alors j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Marc au chapitre 4 et au verset 5. Si vous avez vos bibles, n'hésitez pas à les ouvrir, mais vous savez que c'est affiché derrière comme d'habitude. Marc chapitre 4 verset 5, il nous dit: d'autres, en parlant des semences, tombèrent sur un sol rocailleux. D'ailleurs, si vous n'avez pas tout le contexte, n'hésitez pas à aller voir le message d'RP, il est très bien fait. Voilà, c'est comme ça, vous avez tout le contexte autour et c'est vraiment intéressant. D'autres, les semences tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas pris de racines, ils séchèrent. Et puis l'interprétation que Jésus va faire au verset 16 nous dit: puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, les voilà qui abandonnent tout. Ils sont inconstants. Alors, plutôt que d'essayer de rentrer dans une over-culpabilisation, j'aimerais juste dire que cette phase d'inconstance, ça peut être des saisons de vie par lesquelles on passe. On n'est pas tout le temps inconstant. Il y a des phases où on est constant et il y a des moments où on a du mal à gérer cette constance. Et notre défi ce matin, justement, ça va être de comprendre comment relever ce défi de la constance. Mais là, on comprend bien dans ce texte qu'il y a des raisons, il y a des causes, il y a des choses qui nous expliquent et qui nous amènent à dire mais pourquoi on est inconstant? Alors, j'ai pris mon petit dictionnaire et j'ai pris la suite de la première définition. Sur la définition de l'inconstance, on a disposition à changer fréquemment d'idées, de sentiments, de résolutions, et en particulier à manquer de fidélité dans les affections, les relations sentimentales. Et donc, on va bien parler de relations ce matin. Mais de relations avec qui, comment, etc. Ma première question, mon premier point est celui-ci, est très simple. Pourquoi est-ce que je suis inconstant? Qu'est-ce qui provoque l'inconstance chez moi? Alors, avant que je vous partage mes points, est-ce que vous pouvez me dire, vous, d'après vous, là, à haute voix, comme ça, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui peut provoquer chez vous, comme chez moi, chez nous, qu'est-ce qui peut provoquer le fait qu'on soit inconstant? Le découragement. Bien fort, comme ça, on entend bien. La flemme. J'avais pas prévu celui-là, tu vois. Mais tellement. La peur, la nature pécheresse. La déception, l'envie. Je les répète pour que nos auditeurs ils entendent bien. Les distractions. Les différentes situations. Le manque de sens. Waouh. Pardon ? J'ai entendu un truc, mais j'ai pas bien. Le focus. Ouais, la perte de focus. Bon, vous avez compris qu'il y a plein de choses qui peuvent nous amener, finalement, dans notre saison de vie, à être inconstant. Il y a plein de choses. Et le texte nous parle, dans ce qu'on a lu tout à l'heure, qu'il y avait deux causes, d'après moi et d'après ce texte, à l'inconstance. Des difficultés extérieures et des difficultés intérieures. Ok ? Et vous en avez cité pas mal. Et le texte nous dit, quand on le reprend, il nous dit, ils entendent la parole, mais ils l'acceptent aussitôt avec joie, etc. Quand surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole. Deux choses, deux difficultés extérieures qui sont manifestées dans ce texte. Et quand on réfléchit au mot difficulté, les Strong, donc c'est l'analyse de ces mots-là en hébreu et en grec, nous dit une pression, une oppression. Une affliction, une tribulation, des choses que nous vivons tous et qui viennent forcément nous déstabiliser. Et puis l'autre cause dans les difficultés extérieures, c'est la persécution à cause de la parole. La persécution à cause de la foi, la persécution à cause de ce que tu vis dans ta relation avec Dieu. D'un côté, des pressions en tout genre, de l'autre côté, des difficultés vraiment d'ordre spirituel. Et vous savez, c'est quoi notre analyse la plupart du temps? Et c'est là où on doit être à même de mettre de l'équilibre dans notre vision. C'est qu'on peut voir que ce qu'il y a autour de nous, ça parfois c'est tout est spirituel, ou parfois rien n'est spirituel. On va tout analyser comme « ce que je vis là, c'est l'ennemi qui est en train de me tenter, de m'abattre, de me mettre des coups ». Et puis de l'autre côté, « non, c'est pas vraiment ça, c'est pas spirituel, tout le monde vit ça ». Et ce texte nous amène à comprendre qu'il y a les deux. Il y a des moments dans nos vies où ce qui nous entoure et qui provoque l'inconstance peut être d'ordre spirituel, mais on a aussi des choses sur lesquelles on est tous confrontés. Chrétiens ou non chrétiens, la maladie, elle touche les deux. Et même si Dieu derrière est capable d'utiliser ces notions pour nous amener à comprendre des choses spirituelles, on est tous confrontés à un moment, à des choses qui sont d'ordre des difficultés, des oppressions, des pressions, mais aussi, de l'autre côté, de la persécution à cause de la parole. Et le danger, ça serait de voir tout d'un côté ou tout de l'autre. Et tout cela, toutes ces difficultés, toutes ces oppressions que vous vivez, que je vis, nous amènent à comprendre que ça provoque chez nous, ça vient nous challenger, ça vient nous pousser, et ça nous pousse à l'inconstance. Et entre vous et moi, on en vit souvent ce type d'oppression. On en vit souvent quand on est comme dans un étau, que ça serre. Et tu dis, quand est-ce que ça va finir, cette situation? Et quand tu es tellement pris par des circonstances extérieures, tu es tellement environné, il y a des moments où tu peux arriver, excusez-moi de le partager, mais tu peux remettre en question ta foi. Est-ce que Dieu existe vraiment dans la situation dans laquelle je suis? Tu peux être poussé, tellement fort et oppressé, tellement fort, que tu arrives à un moment, tu dis, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Et faut pas avoir peur de dire que des fois on doute. Des fois, on ne sait pas parce que l'oppression, elle est là, parce que la pression nous écrase. Et on se dit, mais Seigneur, où es-tu? D'un côté, les difficultés extérieures, difficultés, persécutions à cause de la parole. De l'autre côté, les difficultés intérieures. La Bible nous parle dans ce texte du manque de profondeur, de légèreté. La terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Ils ne la laissent pas prendre racine. Et ça, c'est pas l'extérieur, en fait, là. C'est ce qu'il y a là qui se passe. C'est là que c'est plus compliqué. Parce qu'on peut avoir des pressions et être capable de les vivre. Mais si notre profondeur, elle n'est pas là, c'est ça qui provoque l'inconstance. Et on va voir tout à l'heure comment, justement, développer cette profondeur. Mais vous comprenez bien, et on comprend ensemble, que dans notre situation, dans les situations où on est inconstant, ce qui la provoque, c'est à la fois l'extérieur, mais aussi l'intérieur. La stabilité, la profondeur qu'on a dans notre relation avec Dieu. Cette bonne terre qui permet de recevoir la parole. Et c'est un vrai, ça va être pour nous un point sur lequel il va falloir qu'on s'arrête. Comment développer une profondeur dans ma relation avec Dieu, de façon à ce que quand les pressions extérieures arrivent, je tienne bon, je tienne ferme. Et si je suis pas en train de vous dire, vous êtes pas profond, c'est pas bien, je me mets dedans. On a tous besoin d'être encore plus profond, pour que les racines, elles tiennent encore plus. Et que face aux tempêtes, on puisse dire, je tiens bon parce que je suis accroché. Amen. J'aimerais vous parler un instant d'un exemple dans la Bible. Comme ça, je vise personne. Mais en même temps, on se met tous dedans. Vous connaissez Élie ? Élie, c'est assez intéressant. Il est dans un contexte un peu particulier. Il y a un roi qui s'appelle Akab. Et Akab, c'est pas le meilleur des rois. Il va se tourner vers les prophètes de Baal, il y a de l'idolâtrie, c'est compliqué dans le pays. Et en plus, il y a une sécheresse là qui dure depuis des semaines et des années, puisque 3 ans de sécheresse. Et Élie vit un moment assez particulier dans sa vie. Et le texte se trouve dans 1 Roi 18 et 1 Roi 19. Dans 1 Roi 18, Élie va vivre un temps de victoire écrasante sur les prophètes de Baal. Rapidement, je vous fais le contexte. Alors que les gens se tournent tout doucement vers les prophètes de Baal et il y a de l'idolâtrie, Élie va les voir et leur dire « Mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ? Jusqu'à quand serez-vous entre les deux ?» Et pour cela, il va mettre en avant les prophètes de Baal et lui, il va dresser un autel et il va dire « Mais on va voir qui est vraiment Dieu dans l'histoire. » Et alors que sur l'autel, les prophètes de Baal vont faire plein d'imprécations, de choses pour faire venir la présence de Dieu, pour qu'il se passe quelque chose. Il n'y a rien qui se passe. Et lui, Élie, à ce moment-là, va remplir cet autel, va mettre de l'eau dessus, va mettre un... Et la puissance de Dieu va arriver sur l'autel. Et les 400 prophètes de Baal vont être ridiculisés et dans la foulée, jetés et tués. Et la puissance de Dieu va se manifester pleinement. Et le peuple d'Israël va retourner à ce moment-là. Et va redécouvrir qui est Dieu, alors qu'ils s'étaient détournés. Il vit un moment, ici on dirait « Waouh ! Réveil spirituel les gars dans le pays d'Akab ! Truc de fou !» Et puis, on arrive à la fin du chapitre 18, et là il y a un élément déclencheur. On va lire ensemble 1 Roi 19, qui nous dit, c'est 1 Roi 19 verset 1er, « Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. » Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert et après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie là, il passe de cette victoire écrasante à un moment où j'en peux plus. Je comprends pas ce qui se passe. Je suis au bout du bout. Est-ce qu'on peut le blâmer ? Ben moi, je reçois un message comme ça par mail par Jézabel. Autant vous dire que je taille la route. On est d'accord ? Et lui, il s'en va. Mais ce qui va plus loin, c'est sa réaction. Il s'en va pour sauver sa vie, ok ? Mais derrière, la réaction, elle va plus loin. C'est-à-dire qu'il dit, mais maintenant, c'est bon, reprends-moi. Seigneur, je préfère la mort que cette situation par laquelle je suis en train de passer. Élie passe du tout au tout. Élie passe du « je suis à fond » à « je suis au bout ». Et quand on réfléchit, l'inconstance provoque ça. Un changement rapide de réaction. L'inconstance provoque d'un côté un super audacieux, de l'autre côté un mode dépression. L'inconstance provoque que tu reçois la parole avec joie et puis juste après tu abandonnes tout. Voilà ce que provoque l'inconstance. L'instabilité, l'inconstance, le changement rapide. Et c'est ce que nous rencontrons. Et c'est pas agréable pour nous, c'est pas agréable pour les autres, et c'est pas agréable pour Dieu non plus. Comme Élie, on a envie de tout abandonner, on se sent rejeté. Et on arrive dans une forme presque, et je vais pousser un petit peu plus loin, c'est on est presque dans une forme d'immaturité en fait. On est plus mature dans ce qu'on vit et ça vient nous pousser et cette immaturité spirituelle, et ben tout doucement, elle est en train de nous détruire. On est comme des enfants, on n'a pas ce qu'on veut et en plus Dieu répond pas comme on a envie qu'il réponde et tout doucement on tombe dans cette forme d'immaturité. Et c'est dur parce qu'en tant que chrétien, on se dit mais non, moi je suis mature et tout. Oui, mais tout ce qui est tout ça plus notre intérieur, l'extérieur plus l'intérieur fait que tout doucement on remet en question qui est Dieu, on abandonne tout. Et ici, je pense que c'est important de considérer que on y passe tous et il y a tous des phases dans lesquelles on est immature spirituellement. Et l'immaturité spirituelle, soit on la considère comme étant un constat, soit on se dit c'est quelque chose sur lequel je veux rebondir pour pas rester dedans. Et moi, c'est le message que j'aimerais vous inviter à vivre ce matin. Soit tu restes dans le constat de l'inconstance et tu dis bah c'est comme ça, soit tu saisis, on saisit ensemble ce matin qu'il y a une chose, il y a une possibilité de s'en sortir. Un théologien disait, il s'appelle Heath Adamson, je vous le mets en anglais parce que ça a plus de sens, puis je vous le traduis aussi. Spiritual immaturity is childishness. Spiritual maturity is childlikeness. Ce qui veut dire l'immaturité spirituelle, c'est de l'enfantillage, tandis que la maturité spirituelle, c'est ressembler à un enfant. Et je l'ai mis en anglais, pourquoi? Parce que le jeu de mots entre childishness et childlikeness est super intéressant en anglais. Ça rend moins l'histoire en français, mais quand même. Je crois que notre défi ensemble, c'est justement de relever ce défi de la constance et de dire, Seigneur, face à tout ce par quoi je suis en train de passer, j'ai pas envie d'être comme un gamin gâté, mais j'ai envie de prendre ma réalité en compte avec toi et de me dire, je veux réagir comme un enfant de Dieu. Vous voyez la différence? La différence finalement entre être comme un gamin gâté ou être un enfant de Dieu. Parce que je crois que dans les situations par lesquelles nous passons, aussi difficiles soient-elles, nous restons enfants de Dieu. Tu restes enfant de Dieu. Parce que malgré l'oppression, malgré tout ce qui peut être inconstant et difficile dans ta vie, ton statut d'enfant de Dieu ne dépend pas de ton inconstance, mais de l'amour de Dieu pour toi. Vous me suivez ? Et je crois que c'est là où Dieu va nous amener plus loin. Et notre grosse question aujourd'hui, c'est de dire comment je peux relever le défi de la constance dans mes relations, dans ma relation avec Dieu premièrement, mais aussi dans mes relations autour de moi. On fait une petite pause vidéo ? Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux mettre la vidéo si ça marche du coup ? Ça marche pas ? On fait pas de petite pause vidéo. C'est bien aussi. Je vais juste vous montrer une vidéo, mais je vais vous l'expliquer, c'est pas grave. Où on voit une équipe qui va aller déraciner un chêne. Et ils vont aller déraciner un chêne, mais ils n'ont pas pu prendre un gros chêne tellement les racines étaient profondes, donc ils ont été déracinés un tout petit chêne pour expliquer comment le système racinaire du chêne lui permet de vivre. Et alors qu'ils sont en train de vouloir le déraciner, ils prennent 2 semaines pour déraciner un chêne qui n'est pas très grand, un peu plus grand que moi, et ils vont essayer de déraciner et ils vont creuser tout autour un énorme trou. Et ils vont découvrir que les racines sont tellement longues et tellement profondes que c'est pas si facile que ça. Et ce qui va être intéressant, c'est que dans cette vidéo, ils nous montrent la relation, finalement, entre la terre et les racines. Et que les racines, plus elles sont longues, plus le chêne peut tenir face aux tempêtes. Je pense que ça devrait presque être suffisant en termes de message. Mais j'aime bien l'image parce qu'on voit vraiment toutes les racines du chêne et c'est là où on voit la solidité du chêne. Alors, ma deuxième partie est celle-ci. Comment relever le défi de la constance? Comment le relever de l'inconstance vers l'inconstance? Alors, une des clés qui nous est donnée se trouve dans la suite de Marc, dans la parabole du semeur, Marc au chapitre 4 et au verset 20, qui nous dit « D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. » Deux éléments importants dans ce texte. C'est recevoir la semence et être une bonne terre. Vous êtes OK avec ça? Alors, je suis pas du tout un spécialiste de la botanique. Hein. Je vous le dis, voilà. Moi, je suis resté jusque-là, je comprends. C'est pas trop, voilà, la terre, des graines. Ça me fait penser, vous savez, on faisait les petits pots quand on était gamin, où on mettait une petite graine de lentille dans de la... Et toi, t'es dans du coton, et t'étais trop content quand tu voyais des racines qui sortaient. Tu dis, ça y est, les gars, je suis jardinier. Non, t'as mis ça dans un gobelet en plastique, puis ça marche plus après. Ouais, je vous fais une confidence. Hein. Chez moi, j'ai des fraises. Et je suis tellement content quand elles poussent. En plus, je fais rien et ça marche tout seul. Donc, je suis tellement content. Mais alors, je suis pas jardinier. Mais alors, pas du tout. Pas du tout, je coupe les feuilles qu'il faut pas couper. Enfin voilà, c'est juste génial. Et pendant des années, j'ai travaillé dans le palissage. Le palissage, pour ceux qui savent pas, c'est dans les vignes. Il faut redresser la vigne, en fait. Et mon patron, il pétait un câble. Je retirais toujours les mauvaises plantes, les mauvaises branches. Il dit, mais non, on me dit, celle-là, tu dois la laisser, elle est bonne! Faut pas que tu les retires. Oui, mais quand tu les retires, c'est plus facile, c'est plus beau. Mais, non, on n'a rien à voir. T'as rien compris. Bon, bref. Et du coup, dans cette, mais par contre, cette image-là, je la comprends bien. C'est qu'il faut qu'il y ait de la bonne terre pour que les racines, elles poussent bien. Ça, j'ai bien compris cette histoire. Mais alors, c'est quoi cette bonne terre? Je crois que ce qu'on a besoin, c'est de comprendre que la profondeur de notre terre dépend de la profondeur de notre relation avec Dieu. La profondeur de notre terre dépend de la profondeur de notre relation avec Dieu. La profondeur n'est pas une question de quantité, mais bien de qualité. La qualité de la terre fait tout. Et ça, je l'ai expérimenté. Quand tu mets de la terre, de la bonne terre dans un endroit, la plante, elle pousse mieux que si tu mets dans du sable ou des choses qui sont moins correctes. Alors si tu as de la bonne terre de qualité, la plante va mieux pousser parce qu'il y a des nutriments. Donc maintenant, la question, c'est, elle est comment ma terre à moi? Bien, je crois que pour que notre terre soit de bonne qualité, il faut apprendre à connaître celui qui l'a fabriquée. Qui a fabriqué cette terre? C'est Dieu. Donc nous devons comprendre que la constance de Dieu est la source de notre constance personnelle. La constance de Dieu est la source de notre constance personnelle. Pourquoi? Parce que si nous sommes faillibles, lui, il est infaillible. Est-ce qu'on peut lire ensemble le psaume chapitre 103, verset 13? Vous pouvez me dire non, mais c'est encore moi qui ai le micro, donc on va quand même le lire. Le psaume 103, verset 13. Comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Il sait de quelles pattes nous sommes façonnés, et il se rappelle que nous sommes poussière. Et là, on voit bien la différence entre sa constance, notre inconstance. On le voit bien, c'est clair dans ce texte-là. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe, une fleur des champs, la voici qui fleurit, qu'un vent souffle dessus, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît pas. Éternel, ton amour est là, depuis toujours et durera toujours pour ceux qui te révèrent. Ta loyauté demeure à l'égard des enfants de leurs enfants. Tiens, on l'a chanté dans un chant il n'y a pas longtemps. Elle est pour ceux qui restent fidèles à ton alliance, pour ceux qui se souviennent de tes commandements, pour les mettre en pratique. Et là, on a quelque chose qui est assez interpellant, c'est l'opposition entre la futilité d'une certaine façon, la limite de l'homme face à un Dieu sans limite. Ce qui me pousse à dire que si moi je vis cette relation d'intimité avec le Dieu sans limite, avec le Dieu qui est constant, avec le Dieu qui a une terre qui est tellement bonne, si c'est cette profondeur que je développe, ça va faire toute la différence dans ma vie du quotidien. J'en déduis la conclusion suivante, c'est que plus je passe du temps à connaître le Père, plus je passe du temps à faire que ma terre, elle soit bonne. Pourquoi? Parce que ce Père, il t'aime tellement qu'il sait exactement par où tu es en train de passer, même si tu es inconstant. Ce Père, il te connaît tellement bien qu'il veut juste te rappeler qui il est ce matin. Et ce Père, par-dessus tout, lui ne change pas en fonction des circonstances. La Bible nous dit qu'il y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Pourtant, chez nous, des changements, il y en a, hein. J'aime ce texte qui nous dit dans 2 Timothée 2, 13, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. Ta constance dépend donc de la constance de Dieu, à condition que tu fasses de Dieu ta priorité, à condition que Dieu reste celui qui soit ton quotidien, même quand ça tangue de tous les côtés, même quand les tempêtes sont là. Pour relever le défi de la constance, notre première étape, c'est pas de regarder à ton inconstance, mais à sa constance. C'est le regard que Dieu va poser vers toi. C'est le regard que Dieu veut poser vers toi. Parce que Dieu voit l'image beaucoup plus large que nous. Mais ça, tout le monde peut l'entendre. Tout le monde entend que la parole de Dieu, que Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et ça, on veut l'entendre. Maintenant, la question, c'est comment je reçois ce que Dieu veut me dire? C'est là que c'est différent. Alors, comprenons bien ensemble. Dieu, lui, est constant. Il ne change pas, il ne varie pas. Et il ne variera pas en fonction de tes échecs. Son amour ne changera pas en fonction de tes échecs. Son amour ne changera pas en fonction de tout ce que tu peux faire. Parce que son amour, c'est dans son identité d'être amour. Maintenant, ce qui change donc, c'est nous. C'est donc notre perception de Dieu qui change. C'est notre conception de Dieu qui change. Dieu ne peut pas m'aimer parce que Dieu change parce que moi je change. Dieu, c'est ma vision qui vient du coup transformer qui Dieu est. Pourquoi ? Parce qu'on a une vision humaine de qui Dieu est. D'ailleurs, quand tu essaies de comprendre l'amour de Dieu, tu essaies de le comparer à des réalités que moi je connais. On le compare par exemple à l'amour qu'on a, qu'il y a un homme pour une femme. Mais l'amour qu'un homme pour une femme a n'est même pas un quart de ce qu'est l'amour de Dieu pour toi. Vous comprenez que notre prisme à ce moment-là est celui de prendre notre réflexion humaine et de mettre Dieu dans cette réflexion humaine. Alors que Dieu est tellement plus grand, tellement plus large, tellement plus constant. Et c'est ça qu'on découvre. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu découvres que Dieu est un Dieu constant, mais un Dieu de fidélité, un Dieu d'amour. Maintenant, ma question. On a vu qu'il nous faut une bonne terre, mais il faut accepter aussi que la semence, elle prenne la place dans cette terre. Vous vous souvenez de Élie tout à l'heure ? Ouais ? On va aller voir un peu ce qui se passe, parce qu'aux dernières nouvelles, il était pas loin de la mort quand même. Comment va-t-il réagir ? Je vous propose qu'on lise 1 Roi 19 au chapitre 19, verset 5, qui nous dit « En parlant de Élie, il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha. Et lui dit, lève-toi, prie pendant 5 heures, lis ta Bible, et puis une fois que tu auras lu ta Bible, tu vas venir à l'église tous les dimanches. Et quand tu auras lu tout, tu vas écouter toutes les prédications de toutes les pies, et surtout, t'en oublies aucune !» C'est pas vraiment ça, hein ? Moi, j'aime bien parce que là, franchement, ça me fait plaisir. Lève-toi et mange. Ah, cool. Et il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, et puis ça, j'aime bien aussi. Puis il se recouche. Puis comme ça ne suffit pas une fois, on va le faire 2 fois. L'ange de l'Éternel va une seconde fois, le toucha, lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Autrement dit, je sais où t'en es, mon gars. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et on va voir que plus tard, on en parlera un petit peu ce qui se passe plus tard, après. Élie aurait pu réfléchir et se dire, c'est pas vraiment une parole très spirituelle de manger et dormir. C'est pas super puissant par rapport à ce que j'ai vécu juste avant, quand même. Mais ici, ce que Dieu fait, c'est qu'il prend soin d'Élie. Physiquement, il s'arrête et il prend soin de lui. Et je crois qu'un de nos gros challenges, en fait, c'est de dire, Seigneur, la parole que tu vas me donner dans mon inconstance va peut-être simplement me pousser à redevenir constant en prenant soin de moi et de ma relation avec toi. Parce que dans mon inconstance, je cours partout. Mais dans l'inconstance, je laisse les bras de Dieu m'environner. Vous savez, on court tellement dans tous les sens que des fois, on n'est même pas prêt à ce que Dieu nous fasse un câlin. Et ici, ce que Dieu dit à Élie, c'est « Élie, tu viens de prendre un gros coup là, c'était compliqué. Je vais m'occuper de toi et je vais prendre soin de toi. Dans ce système d'inconstance, je vais être avec toi. » Cette réponse, elle est « mange, bois, dors, point barre. » Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Soit on fait comme Élie, on le saisit, soit on le rejette en se pensant que ce n'est pas la réponse qu'on attendait à notre problématique. Accepter de manière simple qu'au milieu de nos incompréhensions, Dieu nous dit simplement d'arrêter de dormir et de manger, c'est peut-être une occasion de retrouver le cœur du Père et donc la constance du Père. Amen. À moins que parfois on aime mieux adorer les combats qu'adorer Dieu. Ce qui peut aussi arriver. Parce que dans notre milieu chrétien, on aime bien quand on a des combats. Ça veut dire qu'on est dans le plan de Dieu, les combats. Ouais, mais il y a des moments où on n'a plus les forces, alors faut peut-être s'arrêter, quoi. Vous êtes OK avec ça ? J'espère que je choque personne. C'est une question de regard, en fait. C'est une question de choix d'accepter que la parole de Dieu, les racines que va provoquer la parole de Dieu, viennent s'imprégner et faire un mix avec cette terre qui est la tienne. Et qui est comme cette relation, cette fusion qui se met en place. J'avance sur ce texte, j'ai presque fini. 2 Corinthiens 4,16 nous dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Alors même que notre être extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Et le mot passagère ici, les choses passagères, c'est le même mot que le mot inconstant. Quel est le regard que nous portons sur nous-mêmes et sur Dieu dans les tempêtes par lesquelles nous sommes en train de passer? J'ai invité l'équipe de louange à monter et j'aimerais juste conclure en disant que de la constance, quand tu laisses la nature de Dieu vraiment te remplir, quand tu vas chercher son cœur, quand tu t'arrêtes pour le découvrir plus au milieu de ton inconstance, eh bien tout doucement, petit à petit, tu vas commencer à porter du fruit. Et ceux qui sont autour de toi vont dire « mais il y a quelque chose d'autre dans cette personne ». Même si les tempêtes sont là, tu tiens bon, tu t'accroches. Et ce n'est pas parce que tu es meilleur, c'est parce que la terre, la source de ta terre est meilleure. Parce que celui en qui tu as mis ta confiance, elle est meilleure. Maintenant, la question, et c'est ce qui va se passer avec Élie. Hein. Élie va reprendre des forces et va marcher 40 jours. Et puis après, marcher 40 jours, il va oindre un nouveau roi et il va trouver un successeur pour lui. C'est-à-dire qu'il va porter du fruit derrière ce qu'il vient de vivre. Parce qu'il a accepté un moment, dans son inconstance, de retrouver la constance de Dieu. J'aimerais conclure pour de vrai. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es venu ce matin en disant « Ouais, je reconnais que je suis inconstant. Je le reconnais. Je suis au bout et je... Voilà, un coup ma foi est à fond, un coup je viens pas, un coup je tiens, un coup je tiens pas, un coup... » Et le premier point, c'est déjà de le reconnaître. Et quand tu l'as reconnu, c'est de se dire « Ok, quelle est la source de mon inconstance ?» Peut-être de comprendre que on a placé nos racines au mauvais endroit. Peut-être comprendre que notre terre aujourd'hui, elle n'est pas assez épaisse et que j'ai besoin de retrouver ce cœur à cœur avec Dieu. Tu sais, Jésus l'a donné sa vie pour que tu aies une relation privilégiée avec Dieu, pour travailler à cette relation, pour pouvoir avoir ce temps de cœur à cœur. Et c'est pour chacun d'entre nous. Entendre le cœur du Père battre te permettra d'avoir une terre qui soit malléable. Accepter les paroles de Dieu te permettra de grandir et de te tenir bon dans les tempêtes. Ma question, est-ce que ce matin on veut ensemble avec les pieds relever le défi de la constance? Dire Seigneur, que ma terre soit profonde, je veux te connaître davantage, je veux connaître ton amour, je veux connaître qui tu es, je veux avoir ta perception de qui tu es. On peut fermer les yeux un instant? Et peut-être que c'est ton cas ce matin, tu te dis Seigneur, là je suis venu ce matin mais j'ai plus forcément de force, j'ai plus rien, je veux juste te retrouver. Retrouver le cœur du Père. Ben, j'aimerais prier pour toi ce matin. Tu peux simplement venir comme tu es. Et dire, Seigneur, je veux retrouver ton cœur ce matin. Je suis tellement inconstant. Mais Dieu n'a pas disqualifié cette situation. Il te dit qu'il y a une possibilité. Il te dit que c'est possible. On prie ensemble. Seigneur, ce matin, on a tous nos zones d'inconstance. Nos saisons de vie où ça tient pas forcément. On doute, on remet en question qui tu es et qui nous sommes. Mais ce matin, c'est humblement qu'on vient devant toi en disant j'ai besoin de toi. Parce que je veux tenir sur le long terme. Parce que toi, tu as tenu sur le long terme pour moi. Parce que tu as donné ta vie, tu as été jusqu'au bout, tu as été constant dans ton amour et tu l'es encore. Seigneur, je reconnais que parfois, j'ai manqué le but. Je reconnais que je me suis planté. Mais ce matin, je reviens à toi. Simplement pour te rencontrer. Je veux retrouver le cœur du Père dans la lecture de la parole de Dieu. Je veux retrouver le cœur du Père dans la louange et l'adoration, dans la crainte de l'Éternel, dans l'adoration. Je veux retrouver le cœur du Père. Parce que Seigneur, j'ai besoin que ma terre, elle soit profonde face à tout ce qu'il y a extérieur et intérieur. J'ai besoin, Seigneur, d'avoir une terre profonde ce matin. Seigneur, je veux vraiment développer ma relation avec toi avant toutes les autres relations. Seigneur, je veux développer cette relation d'intimité, de profondeur. Seigneur, je veux chaque jour me lever en disant, Seigneur, si j'ai pas été chercher ton cœur, il manque quelque chose à ma vie. Parce que tu es celui qui me donnera les forces de tenir dans cette journée, dans cette semaine, dans ce mois ou dans cette vie. Seigneur, je veux relever le défi de la constance avec toi. J'ai besoin, tellement besoin de toi. Merci Père éternel, parce que rien ne t'est impossible. Rien n'est impossible, rien n'est trop dur. Mais ta présence fait la différence. Quand on rentre dans ta présence, ça fait la différence. On veut rentrer dans ta présence encore. À toi la gloire, Jésus. Amen. On va chanter ce chant ensemble et on va lui dire, Seigneur, rien ne t'est impossible. Même mon inconstance, elle t'est pas impossible. Vous voulez bien faire ça avec moi? Pour ceux qui le peuvent, on se met debout et on vit ce chant ensemble. Amen.
Cette maison est appelée une maison de prière, n'est-ce pas? Et on va continuer, on va finir ce temps en prière. Il y a deux choses importantes qu'on ne voulait pas laisser filer dans tout ce qu'on a entendu sur la constance ce matin. La première, je vais laisser à Greg de venir. Il a une pensée pendant le temps de la louange. Et je pense que cette pensée peut venir édifier. Restons juste dans la louange, debout. On va vraiment continuer à proclamer. Et voilà, juste écoutons, saisissons et on va prier pour ça.
Tu es venu ici dans un état de profonde solitude, tu te sens insignifiant, tu ne te sens pas aimable et tu vis un rejet profond. L'image que tu as de toi-même est désastreuse, tu ne t'aimes pas, tu te dis que c'est la dernière fois que tu viendras ici car tu as le sentiment que tu n'as de la valeur pour personne. Le Seigneur ton Dieu t'aime d'un amour incomparable à ce que tu imagines. Tu es précieux à ses yeux et ta valeur a le prix du sacrifice de Jésus-Christ pour toi. Accepte de te voir comme il te voit et refuse de te voir par le regard des autres sur toi et ton propre regard qui te dénigre. C'est ainsi que tu vas apprendre à t'aimer et à comprendre la valeur que tu as. Ainsi, tu vas retrouver la joie, l'amour et la paix. Tu vas t'ouvrir aux autres et les autres auront envie de prendre du temps avec toi. Tu vas tout à nouveau briller et entrer dans ce que le Seigneur a merveilleusement prévu pour toi.
Avec Greg, Seigneur, et avec toute l'Église maintenant, nous prions pour quelqu'un, pour plusieurs, qui sont oppressés par le rejet. Nous prions dans le nom de Jésus que tout sentiment destructeur s'en aille maintenant. Nous prions, Seigneur, parce que nous avons entendu ce matin que tu es l'Éternel qui nous délivre de tous nos ennemis. Si quelqu'un dans ce lieu ce matin est percuté par ce sentiment destructeur, par la foi en Jésus-Christ, nous plaidons leur cause devant toi. Nous intercédons au trône de la grâce ce matin. Te prier qu'il y ait un avant et un après. Et que la joie de l'Éternel soit à nouveau la force d'un enfant de Dieu ou d'enfant de Dieu dans ce lieu. Nous le proclamons maintenant. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Voilà notre déclaration ce matin. Viens toucher, viens libérer ce matin. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute mauvaise pensée soit brisée, toute oppression soit brisée. Et pour vous qui êtes peut-être en ligne avec nous ce matin, qui êtes touchés, percutés par tout ce qu'on vit depuis ces dernières minutes, nous vous bénissons et nous prions que là où vous êtes, le lieu où vous êtes, soit rempli de la présence de Dieu, de l'Éternel qui délivre, de l'Éternel notre paix. Merci de te manifester, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. Amen, merci. Il y a un deuxième sujet de prière. Est-ce que l'Église est fatiguée d'être une maison de prière pour toutes les nations? De toute façon, vous êtes obligés de rester, vous aimez la prière, vous êtes enfant de Dieu. On a reçu un message d'une de nos missionnaires, Agathe, qui cette semaine-là a été elle-même oppressée et a eu des moments difficiles. Et quand on est sur le terrain missionnaire, il y a la constance dans le sens de l'éloignement. Il y a aussi la constance parce qu'il peut y avoir comme cela des choses qui viennent, qui vous percutent comme cela. Et sans rentrer dans tous les détails, là c'est bon, Agathe va quand même bien, mais elle a été pas mal bousculée. Et il nous semble important de pouvoir prier pour elle là maintenant, être sensible à ce qui se vit. Je demande à Sandrine, si tu veux bien pouvoir venir. Sandrine est responsable du département aussi, mission. Et si tu peux prier pour Agathe. Et après, on va finir dans la proclamation et ça va être bon.
Seigneur, nous voulons te remettre notre sœur qui est là-bas au Cambodge, qui travaille pour toi, qui vit des bonnes choses avec toi et qui, oui, ben, vit aussi ses difficultés, cet accident. Seigneur, nous voulons te la mettre entre tes mains et Seigneur, bénis-la. Tu la protèges dans sa santé, qu'elle puisse se renouveler. Donne-lui de la force pour continuer là où elle est. Donne-lui de la force pour se remettre physiquement aussi, Seigneur. Bénis-la abondamment, Seigneur. Amen.
Hey! Alléluia, alléluia. Allez Église, c'est ton moment. Alléluia, alléluia. Proclame-le. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom.
Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia.
Allez, c'est maintenant qu'on prépare notre semaine. On le proclame ensemble, il va. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Seigneur des Seigneurs. Puissant, alléluia, 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 alléluia. Le Dieu de délivrance, le Dieu de victoire, une dernière fois. Alléluia, ensemble, l'Église, on y va. Alléluia, alléluia, alléluia. Loué soit Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Puissant, puissant est son nom.
Puissant est son nom.
puissant est son nom. Allez, finissons avec une acclamation à Jésus dans ce lieu. Il le mérite, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. À lui toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire. Et tout le monde dit amen. Un bon retour à chacun. N'oubliez pas de vous saluer, de vous encourager s'il vous plaît. C'est important. Allez même vers quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment et bénissez-le dans le nom du Seigneur. Bonne semaine à chacune et à chacun, et bonne semaine à vous en ligne, et à très bientôt.